Théophile Gautier, Avatar, chapitre 1. Personne ne pouvait rien comprendre à la maladie qui minait lentement Octave de Saville. Il ne gardait pas le lit et menait son train de vie ordinaire. Jamais une plainte ne sortait de ses lèvres, et cependant il dépérissait à vue d'œil. Interrogé par les médecins que le forçaient à consulter la sollicitude de ses parents et de ses amis, il n'accusait aucune souffrance précise, et la science ne découvrait en lui nul symptôme alarmant. Sa poitrine auscultée rendait un son favorable, et à peine si l'oreille appliquée sur son cœur y surprenait quelques battements trop lents ou trop précipités. Il ne toussait pas, n'avait pas la fièvre, mais la vie se retirait de lui et fuyait par une de ces fentes invisibles dont l'homme est plein au dire de Terence. Quelquefois, une bizarre syncope le faisait pâlir et froidir comme un marbre. Pendant une ou deux minutes, on eût pu le croire, puis le balancier, arrêté par un doigt mystérieux, n'étant plus retenu, reprenait son mouvement et Octave paraissait se réveiller d'un songe. On l'avait envoyé aux eaux, mais les nymphes thermales ne purent rien pour lui. Un voyage à Naples ne produisit pas un meilleur résultat. Ce beau soleil si vanté lui avait semblé noir, comme celui de la gravure d'Herbert Dürer. La chauve-souris qui porte écrit dans son aile ce mot « mélancolia » fouettait cet azur étincelant de ses membranes poussiéreuses et voletait entre la lumière et lui. Il s'était senti glacé sur le quai de la Mergellina, où les alzeroni dominus se cuisent et donnent à leur peau une patine de bronze. Il était donc revenu à son petit appartement de la rue Saint-Lazare et avait repris en apparence ses habitudes anciennes. Cet appartement était aussi confortablement meublé que peut l'être une garçonnière, mais comme un intérieur prend à la longue la physionomie et peut-être la pensée de celui qui l'habite, le logis d'Octave s'était peu à peu attristé. Le damas des rideaux avait pâli et ne laissait plus filtrer qu'une lumière grise. Les grands bouquets de pivoine se flétrissaient sur le fond moins blanc du tapis. L'or des bordures, encadrant quelques aquarelles et quelques esquisses de maître, avait lentement rougi sous une implacable poussière. Le feu découragé s'éteignait et fumait au milieu des cendres. La vieille pendule de boule incrustée de cuivre et d'écailles vertes retenait le bruit de son tic-tac et le timbre des heures ennuyées par les bas comme on fait dans une chambre de malade. Les portes retombaient silencieuses, et les pas des rares visiteurs s'amortissaient sur la moquette. Le rire s'arrêtait de lui-même en pénétrant dans ces chambres mornes, froides et obscures, où cependant rien ne manquait du luxe moderne. Jean, le domestique d'Octave, s'y glissait comme une ombre, un plumeau sous le bras, un plateau sur la main, car impressionné à son insu de la mélancolie du lieu, il avait fini par perdre sa loquacité. Aux murailles pendaient en trophée des gants de boxe, des masques et des fleurets, mais il était facile de voir qu'on n'y avait pas touché depuis longtemps. Des livres pris et jetés insouciamment traînaient sur tous les meubles, comme si Octave eût voulu, par cette lecture machinale, endormir une idée fixe. Une lettre commencée, dont le papier avait jauni, semblait attendre depuis des mois qu'on l'achevât, et s'étalait comme un muet reproche au milieu du bureau. Quoique habité, l'appartement paraissait désert. La vie en était absente, et en y entrant, on recevait à la figure cette bouffée d'air froid qui sort des tombeaux quand on les ouvre. Dans cette lugubre demeure où jamais une femme n'aventurait le bout de sa bottine, Octave se trouvait plus à l'aise que partout ailleurs. Ce silence, cette tristesse et cet abandon lui convenaient. Le joyeux tumulte de la ville effarouchait, quoiqu'il fît parfois des efforts pour s'y mêler. Mais il revenait plus sombre des mascarades, des parties ou des soupers où ses amis l'entraînaient. Aussi ne luttait-il plus contre cette douleur mystérieuse et laissait-il aller les jours avec l'indifférence d'un homme qui ne compte pas sur le lendemain. Il ne formait aucun projet, ne croyant plus à l'avenir, et il avait tacitement envoyé à Dieu sa démission de la vie, attendant qu'il l'acceptât. Pourtant, si vous vous imaginiez une figure amaigrie et creusée, un teint terreux, des membres exténués, un grand ravage extérieur, vous vous tromperiez. Tout au plus apercevrait-on quelques meurtrissures de bistre sous les paupières, quelques nuances orangées autour de l'orbite, quelques attendrissements aux tempes sillonnées de veines bleuâtres. Seulement, l'étincelle de l'âme ne brillait pas dans l'œil, dont la volonté, l'espérance et le désir s'étaient envolés. Ce regard mort dans ce jeune visage formait un contraste étrange et produisait un effet plus pénible que le masque décharné aux yeux allumés de fièvre de la maladie ordinaire. Octave avait été, avant de languir de la sorte, ce qu'on nomme un joli garçon, et il l'était encore. D'épais cheveux noirs, aux boucles abondantes, se massaient, soyeux et lustrés, de chaque côté de ses tempes. Ses yeux longs, veloutés d'un bleu nocturne, frangés de cils recourbés, s'allumaient parfois d'une étincelle humide. Dans le repos, et lorsque nulle passion ne les animait, il se faisait remarquer par cette quiétude sereine qu'ont les yeux des Orientaux lorsqu'à la porte d'un café de Smyrne ou de Constantinople, ils font le kief après avoir fumé leur narguilé. Son teint n'avait jamais été coloré et ressemblait à ces teints méridionaux d'un blanc olivâtre qui ne produisent tout leur effet qu'aux lumières. Sa main était fine et délicate, son pied étroit et cambré. Il se mettait bien, sans précéder la mode ni la suivre en retardataire, et savait à merveille faire valoir ses avantages naturels. Quoiqu'il n'eût aucune prétention de dandy ou de gentleman reader, s'il se fût présenté au Jockey Club, il n'eût pas été refusé. Comment se faisait-il que, jeune, beau, riche, avec tant de raisons d'être heureux, un jeune homme se consumât si misérablement ? Vous allez dire qu'Octave était blasé, que les romans à la mode du jour lui avaient gâté la cervelle de leurs idées malsaines, qu'il ne croyait à rien, que de sa jeunesse et de sa fortune, gaspillées en folles orgies, ne lui restaient que des dettes. Non, toutes ces suppositions manquent de vérité. Ayant fort peu usé des plaisirs, Octave ne pouvait en être dégoûté. Il n'était ni splénétique, ni romanesque, ni athée, ni libertin, ni dissipateur. Sa vie avait été jusqu'alors mêlée d'études et de distractions comme celle des autres jeunes gens. Il s'asseyait le matin au cours de la Sorbonne, et le soir il se plantait sur l'escalier de l'Opéra pour voir s'écouler la cascade des toilettes. On ne lui connaissait ni fille de marbre ni duchesse, et il dépensait son revenu sans faire mordre ses fantaisies au capital. Son notaire l'estimait. C'était donc un personnage tout uni, incapable de se jeter au glacier de Manfred ou d'allumer le réchaud d'Escousse. Quant à la cause de l'état singulier où il se trouvait et qui mettait en défaut la science de la faculté, nous n'osons l'avouer, tellement la chose est invraisemblable à Paris au XIXe siècle, et nous laissons le soin de la dire à notre héros lui-même. Comme les médecins ordinaires n'entendaient rien à cette maladie étrange, car on n'a pas encore disséqué d'âme aux amphithéâtres d'anatomie, on eut recours en dernier lieu à un docteur singulier, revenu des Indes après un long séjour, et qui passait pour opérer des cures merveilleuses. Octave, pressentant une perspicacité supérieure et capable de pénétrer son secret, semblait redouter la visite du docteur, et ce ne fut que sur les instances réitérées de sa mère qu'il consentit à recevoir M. Balthazar Cherbonneau. Quand le docteur entra, Octave était à demi couché sur un divan. Un coussin étayait sa tête, un autre lui soutenait le coude, un troisième lui couvrait les pieds. Une gandoura l'enveloppait de ses plis souples et moelleux. Il lisait, ou plutôt il tenait un livre, car ses yeux arrêtaient sur une page et ne regardaient pas. Sa figure était pâle, mais, comme nous l'avons dit, ne présentait pas d'altération bien sensible. Une observation superficielle n'aurait pas cru au danger chez ce jeune malade, dont les guéridons supportaient une boîte à cigares au lieu des fioles, des loques, des potions, des tisanes et autres pharmacopées de rigueur en pareil cas. Ses traits purs, quoique un peu fatigués, n'avaient presque rien perdu de leur grâce et, sauf l'atonie profonde et l'incurable désespérance de l'œil, Octave eût semblé jouir d'une santé normale. Quelque indifférent que fût Octave, l'aspect bizarre du docteur le frappa. Monsieur Balthazar Cherbonneau avait l'air d'une figure échappée d'un conte fantastique d'Hoffmann et se promenant dans la réalité stupéfaite de voir cette création falote. Sa face extrêmement basanée était comme dévorée par un crâne énorme que la chute des cheveux faisait paraître plus vaste encore. Ce crâne nu, poli comme de l'ivoire, avait gardé ses teintes blanches, tandis que le masque, exposé aux rayons du soleil, s'était revêtu, grâce aux superpositions des couches du hâle, d'un ton de vieux chêne ou de portrait enfumé. Les méplats, les cavités et les saillies des os s'y accentuaient si vigoureusement que le peu de chair qui les recouvrait ressemblait avec ses bilrides fripées à une peau mouillée appliquée sur une tête de mort. Les rares poils gris qui flânaient encore sur l'occiput, massés en trois maigres mèches dont deux se dressaient au-dessus des oreilles et dont la troisième partait de la nuque pour mourir à la naissance du front, faisaient regretter l'usage de l'antique perruque à marteau ou de la moderne tignasse des chiens dents et couronnait d'une façon grotesque cette physionomie de casse-noisette. Mais ce qui occupait invinciblement chez le docteur, c'était les yeux. Au milieu de ce visage tanné par l'âge, calciné à des cieux incandescents, usé dans l'étude, où les fatigues de la science et de la vie s'écrivaient en sillage profond, en pattes d'oie rayonnantes, en plis plus pressés que les feuillets d'un livre, étincelaient deux prunelles d'un bleu de turquoise, d'une limpidité, d'une fraîcheur et d'une jeunesse inconcevables. Ces étoiles bleues brillaient au fond d'orbites brunes et de membranes concentriques, dont les cercles fauves rappelaient vaguement les plumes disposées en auréole autour de la prunelle nyctalope des hiboux. On eût dit que, par quelque sorcellerie apprise des brames et des pendis, le docteur avait volé les yeux d'enfant et se les était ajustés dans sa face de cadavre. Chez le vieillard, le regard marquait 20 ans, et chez le jeune homme, il en marquait 60. Le costume était le costume classique du médecin, habit et pantalon de drap noir, gilet de soie de même couleur, et sur la chemise un gros diamant, présent de quelque raja ou de quelque nabab. Mais ses vêtements flottaient comme s'ils eussent été accrochés à un porte-manteau et dessinaient des plis perpendiculaires que les fémurs et les tibias du docteur cassaient en angle aigu lorsqu'il s'asseyait. Pour produire cette maigreur phénoménale, le déférent soleil de l'Inde n'avait pas suffi. Sans doute Balthazar Cherbonneau s'était soumis dans quelque but d'initiation au long jeûne des fakirs et tenu sur la peau de gazelle auprès des yogis entre les quatre réchauds ardents, mais cette déperdition de substance n'accusait aucun affaiblissement. Des ligaments solides étendus sur les mains comme les cordes sur le manche d'un violon reliait entre eux les osselets décharnés des phalanges et les faisait mouvoir sans trop de grincement. Le docteur s'assit sur le siège qu'Octave lui désignait de la main à côté du divan, en faisant des coudes comme un maître qu'on reploie et avec des mouvements qui indiquaient l'habitude invétérée de s'accroupir sur des nattes. Ainsi placé, M. Cherbonneau tournait le dos à la lumière qui éclairait en plein le visage de son malade, situation favorable à l'examen et que prennent volontiers les observateurs plus curieux de voir que d'être vu. Quoique la figure du docteur fût baignée d'ombre et que le haut de son crâne, luisant et arrondi comme un gigantesque œuf d'autruche, accrochât seul au passage un rayon du jour, Octave distinguait la scintillation des étranges prunelles bleues qui semblaient douées d'une lueur propre comme les corps phosphorescents. Il en jaillissait un rayon aigu et clair que le jeune malade recevait en pleine poitrine avec cette sensation de picotement et de chaleur produite par l'émétique. « Eh bien, monsieur, » dit le docteur après un moment de silence, pendant lequel il parut résumer les indices reconnus dans son inspection rapide, « je vois déjà qu'il ne s'agit pas avec vous d'un cas de pathologie vulgaire. Vous n'avez aucune de ces maladies cataloguées à symptômes bien connus que le médecin guérit ou empire. Et quand j'aurai causé quelques minutes, je ne vous demanderai pas du papier pour y tracer une anodine formule du codex au bas de laquelle j'apposerai une signature hiéroglyphique et que votre valet de chambre portera au pharmacien du coin. » Octave sourit faiblement comme pour remercier M. Cherbonneau de lui épargner d'inutiles et fastidieux remèdes. « Mais, continua le docteur, ne vous réjouissez pas si vite. De ce que vous n'avez ni hypertrophie du cœur, ni tubercules au poumon, ni ramollissement de la moelle épinière, ni épanchement séreux au cerveau, ni fièvre typhoïde ou nerveuse, il ne s'ensuit pas que vous soyez en bonne santé. Donnez-moi votre main. » Croyant que M. Cherbonneau allait lui tâter le pouls et s'attendant à lui voir tirer sa montre à seconde, Octave retroussa la manche de sa gandoura, mit son poignet à découvert et le tendit machinalement au docteur. Sans chercher du pouce cette pulsation rapide ou lente qui indique si l'horloge de la vie est détraquée chez l'homme, M. Cherbonneau prit dans sa patte brune, dont les doigts osseux ressemblaient à des pinces de crabe, la main fluette, veinée et moite du jeune homme. Il la palpa, la pétrit, la malaxa en quelque sorte, comme pour se mettre en communication magnétique avec son sujet. Octave, bien qu'il fût sceptique en médecine, ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine émotion anxieuse, car il lui semblait que le docteur lui soutirait l'âme par cette pression et le sang avait tout à fait abandonné ses pommettes. Monsieur Cherbonneau, je ne sais si vous me guérirez, et après tout je n'en ai nulle envie, mais je dois avouer que vous avez pénétré du premier coup la cause de l'état mystérieux où je me trouve. Il me semble que mon corps est devenu perméable et laisse échapper mon moi comme un crible d'eau par ses trous. Je me sens fondre dans le grand tout et j'ai peine à me distinguer du milieu où je plonge. La vie dont j'accomplis autant que possible la pantomime habituelle, pour ne pas chagriner mes parents et mes amis, me paraît si loin de moi qu'il y a des instants où je me crois déjà sorti de la sphère humaine. Je vais et je viens par les motifs qui me déterminaient autrefois et dont l'impulsion mécanique dure encore, mais sans participer à ce que je fais. Je me mets à table aux heures ordinaires et je parais manger et boire, quoique je ne sente aucun goût aux plats les plus épicés et aux vins les plus forts. La lumière du soleil me semble pâle comme celle de la lune, et les bougies ont des flammes noires. J'ai froid au plus chaud jour de l'été, et parfois il se fait en moi un grand silence, comme si mon cœur ne battait plus et que les rouages intérieurs fussent arrêtés par une cause inconnue. La mort ne doit pas être différente de cet état, si elle est appréciable par les défunts. Vous avez, reprit le docteur, une impossibilité de vivre chronique. Maladie toute morale, les plus fréquentes qu'on ne pense. La pensée est une force qui peut tuer, comme l'acide prussique, comme l'étincelle de la bouteille de LED. Quoique la trace de ces ravages ne soit pas saisissable aux faibles moyens d'analyse dont la science vulgaire dispose. Quel chagrin enfoncé son bec crochu dans votre foie. Du haut de quelle ambition secrète êtes-vous retombé grisé et moulu? Quel désespoir amer ruminez-vous dans l'immobilité? Est-ce la soif du pouvoir qui vous tourmente? Avez-vous renoncé volontairement à un but placé hors de la portée humaine? Oh, vous êtes bien jeune pour cela. Une femme vous a-t-elle trompé? Non, docteur, répondit Octave. Je n'ai pas même eu ce bonheur. « Et cependant, reprit M. Balthazar Cherbonneau, je lis dans vos yeux ternes, dans l'habitude découragée de votre corps, dans le timbre sourd de votre voix, le titre d'une pièce de Shakespeare, aussi nettement que s'il était estampé en lettres d'or sur le dos d'une reliure de maroquin. Et quelle est cette pièce que je traduis sans le savoir ?» dit Octave, dont la curiosité s'éveillait malgré lui. « Love's the boss lost !» continua le docteur, avec une pureté d'accent qui trahissait un long séjour dans les possessions anglaises de l'Inde. « Ah, cela veut dire, si je ne me trompe, peine d'amour perdue. Précisément !» Octave ne répondit pas. Une légère rougeur colora ses joues, et pour se donner une contenance, il se mit à jouer avec le gland de sa cordelière. Le docteur avait reployé une de ses jambes sur l'autre, ce qui produisait l'effet des os en sautoir gravés sur les tombes, et se tenait le pied avec la main à la mode orientale. Ses yeux bleus se plongeaient dans les yeux d'Octave et les interrogeaient d'un regard impérieux et doux. « Allons !» dit M. Balthazar Cherbonneau. « Ouvrez-vous à moi, je suis le médecin des âmes. Vous êtes mon malade, et comme le prêtre catholique a son pénitent, je vous demande une confession complète, et vous pourrez la faire sans vous mettre à genoux. »« Pas quoi bon. En supposant que vous ayez deviné juste, vous raconter mes douleurs ne les soulagerait pas. Je n'ai pas le chagrin bavard. » Aucun pouvoir humain, même le vôtre, ne saurait me guérir. Peut-être, fit le docteur en s'établissant plus carrément dans son fauteuil, comme quelqu'un qui se dispose à écouter une confidence d'une certaine longueur. Bon, je ne veux pas, reprit Octave, que vous m'accusiez d'un entêtement puéril, et vous laissez par mon mutisme un moyen de vous laver les mains de mon trépas. Mais puisque vous y tenez, je vais vous raconter mon histoire. Vous en avez deviné le fond, je ne vous en disputerai pas les détails. Oh, ne vous attendez à rien de singulier ou de romanesque. C'est une aventure très simple, très commune, très usée. Mais, comme dit la chanson de Henry Heine, celui à qui elle arrive la trouve toujours nouvelle, et il en a le cœur brisé. En vérité, j'ai honte de dire quelque chose de si vulgaire à un homme qui a vécu dans les pays les plus fabuleux et les plus chimériques. N'ayez aucune crainte, il n'y a plus que le commun qui soit extraordinaire pour moi, dit le docteur en souriant. Eh bien, docteur, je me meurs d'amour. Chapitre 2. Je me trouvais à Florence vers la fin de l'année en 1840 et quelques, la plus belle saison pour voir Florence. J'avais du temps, de l'argent, de bonnes lettres de recommandation, Et alors j'étais un jeune homme de belle humeur, ne demandant pas mieux que de s'amuser. Je m'installais sur le long harnais, je jouais une calèche, et je me laissais aller à cette douce vie florentine qui a tant de charme pour l'étranger. Le matin, j'allais visiter quelque église, quelque palais ou quelque galerie, tout à mon aise, sans me presser, ne voulant pas me donner cette indigestion de chef-d'œuvre qui, en Italie, fait venir aux touristes trop hâtifs la nausée de l'art. Tantôt, je regardais les portes de bronze du baptistère, tantôt le percé de Benvenuto sous la loggia dei Lanci, le portrait de la Fornarina aux Offices, ou bien encore la Vénus de Canova au Palais Pitti, mais jamais plus d'un objet à la fois. Puis je déjeunais au café Donnet, d'une tasse de café à la glace, je fumais quelques cigares, parcourais les journaux, et la boutonnière fleurie de gré ou de force par ces jolies bouquetières coiffées de grands chapeaux de paille qui stationnent devant le café, je rentrais chez moi faire la sieste. À 3 heures, la calèche venait me prendre et me transportait aux cascines. Les cascines sont à Florence ce que le bois de Boulogne est à Paris, avec cette différence que tout le monde s'y connaît et que le rond-point forme un salon de plein air où les fauteuils sont remplacés par des voitures arrêtées et rangées en demi-cercle. Les femmes en grande toilette, à demi couchées sur les coussins, reçoivent les visites des amants et des attentifs, des dandys et des attachés délégations qui se tiennent debout et chapeau bas sur le marchepied. Mais vous savez tout cela aussi bien que moi. Là se forment les projets pour la soirée, s'assignent les rendez-vous, se donnent les réponses, acceptent les invitations. C'est comme une bourse du plaisir qui se tient de 3 heures à 5 heures à l'ombre des beaux arbres, sous le ciel le plus doux du monde. Il est obligatoire pour tout être un peu bien situé de faire chaque jour une apparition au cascine. Je n'avais garde d'y manquer, et le soir après dîner, j'allais dans quelques salons ou à la pergola lorsque la cantatrice en valait la peine. Je passais ainsi un des plus heureux mois de ma vie. Mais ce bonheur ne devait pas durer. Une magnifique calèche fit un jour son début au Cascine. Ce superbe produit de la carrosserie de Vienne, chef-d'œuvre de Lorenzi, miroité d'un vernis étincelant, historié d'un blason presque royal, était attelé de la plus belle paire de chevaux qui ait jamais piaffé Hyde Park ou à St. James au Drawing Room de la Reine Victoria, et mené à la Daumonde de façon la plus correcte par un tout jeune jockey en culotte de peau blanche et en cascade verte. Les cuivres des harnais, les boîtes des roues, les poignées des portières brillaient comme de l'or et lançaient des éclairs au soleil. Tous les regards suivaient ce splendide équipage qui, après avoir décrit sur le sable une courbe aussi régulière que si elle eût été tracée au compas, alla se ranger auprès des voitures. La calèche n'était pas vide, comme vous le pensez bien, mais dans la rapidité du mouvement, on n'avait pu distinguer qu'un bout de bottine allongé sur le coussin du devant, un large pli de châle et le disque d'une ombrelle frongée de soie blanche. L'ombrelle se referma, et l'on vit resplendir une femme d'une beauté incomparable. J'étais à cheval, et je pus m'approcher assez pour ne perdre aucun détail de ce chef-d'œuvre humain. L'étrangère portait une robe de ce vert d'eau glacé d'argent qui fait paraître noire comme une taupe toute femme dont le teint n'est pas irréprochable, une insolence de blonde sûre d'elle-même. Un grand crêpe de chine blanc, tout bessué de broderies de la même couleur, l'enveloppait de sa draperie souple et fripée à petits plis, comme une tunique de Phidias. Le visage avait pour auréole un chapeau de la plus fine paille de Florence, fleuri de myosotis et de délicates plantes aquatiques aux étroites feuilles glauques. Pour tout bijou, un lézard d'or constellé de turquoise, cerclait le bras qui tenait le manche d'ivoire de l'ombrelle. Pardonnez, cher docteur, cette description de journal de mode à un amant pour qui ses menus souvenirs prennent une importance énorme. D'épais bandeaux blonds criplés dont les annelures formaient comme des vagues de lumière descendaient en nappes opulentes des deux côtés de son front plus blanc et plus pur que la neige vierge tombée dans la nuit sur le plus haut sommet d'une alpe. Des cils longs et déliés comme ces fils d'or que les miniaturistes du Moyen-Âge font rayonner autour des têtes de leurs anges voilaient à demi ces prunelles d'un bleu vert pareil à ces lueurs qui traverse les glaciers par certains effets de soleil. Sa bouche, divinement dessinée, présentait ces teintes pourprées qui lavent les valves des conques de Vénus, et ses joues ressemblaient à de timides roses blanches que ferait rougir l'aveu du rossignol ou le baiser du papillon. Aucun pinceau humain ne saurait rendre ce teint d'une suavité et d'une fraîcheur et d'une transparence immatérielle dont les couleurs ne paraissaient pas dues au sang grossier qui illumine nos fibres, les premières rougeurs de l'aurore sur la cime des Sierra Nevadas, le ton carné de quelques camélias blancs à l'onglet de leurs pétales, le marbre de Paros entrevu à travers un voile de gaze rose, peuvent seuls en donner une idée lointaine. Ce qu'on apercevait du col entre les brides du chapeau et le haut du châle étincelait d'une blancheur irisée au bord des contours de vagues reflets d'opale. Cette tête éclatante ne saisissait pas d'abord par le dessin, mais bien par le coloris, comme les belles productions de l'école vénitienne, quoique ses traits fussent aussi purs et aussi délicats que ceux des profils antiques découpés dans la gâte des camées. Comme Roméo oublie Rosalinde à l'aspect de Juliette, à l'apparition de cette beauté suprême, j'oubliais mes amours d'autrefois. Les pages de mon cœur devinrent blanches, tout nom, tout souvenir en disparurent. Je ne comprenais pas comment j'avais pu trouver quelque attrait dans ces liaisons vulgaires que peu de jeunes gens évitent, et je me les reprochais comme de coupables infidélités. Une vie nouvelle data pour moi de cette fatale rencontre. La calèche quitta les Cassines et reprit le chemin de la ville, emportant l'éblouissant de vision. Je mis mon cheval auprès de celui d'un jeune russe très aimable, grand coureur d'eau, répandu dans tous les salons cosmopolites d'Europe et qui connaissait à fond le personnel voyageur de la haute vie. J'amenai la conversation sur l'étrangère et j'appris que c'était la comtesse Praskovi Labinska, une lituanienne, de naissance illustre et de grande fortune, dont le mari faisait depuis 2 ans la guerre du Caucase. Il est inutile de vous dire, docteur, quelle diplomatie je mis en œuvre pour être reçu chez la comtesse, que l'absence du comte rendait très réservée à l'endroit des présentations. Enfin, je fus admis. 2 princesses douairières et 4 baronnes hors d'âge répondaient de moi sur leur antique vertu. La comtesse Labinska avait loué une villa magnifique, ayant appartenu jadis au Salviati, à 1/2 lieue de Florence, et en quelques jours, elle avait su installer tout le confortable moderne dans l'antique manoir, sans en troubler en rien la beauté sévère ni l'élégance sérieuse. De grandes portières armoriées s'agrafaient heureusement aux arcades ogivales, des fauteuils et des meubles de forme ancienne s'harmonisaient avec les murailles couvertes de boiseries brunes ou de fresques d'un ton amorti et passé comme celui des vieilles tapisseries. Aucune couleur trop neuve, aucun or trop brillant n'agaçait l'œil, et le présent ne dissonnait pas au milieu du passé. La comtesse avait l'air si naturellement châtelaine que le vieux palais semblait bâti exprès pour elle. Si j'avais été séduit par la radieuse beauté de la comtesse, je le fus bien davantage encore au bout de quelques visites, par son esprit si rare, si fin, si étendu. Quand elle parlait sur quelque sujet intéressant, l'âme lui venait à la peau, pour ainsi dire, et se faisait visible. Sa blancheur s'illuminait comme l'albâtre d'une lampe d'un rayon intérieur. Il y avait dans son teint de ces scintillations phosphorescentes, de ces tremblements lumineux dont parle Dante lorsqu'il peint les splendeurs du paradis. On eût dit un ange se détachant clair sur un soleil. Je restais ébloui, extatique et stupide. Abîmé dans la contemplation de sa beauté, ravi au son de sa voix céleste qui faisait de chaque idiome une musique ineffable, lorsqu'il me fallait absolument répondre, je balbutiais quelques mots incohérents qui devaient lui donner la plus pauvre idée de mon intelligence. Quelquefois même un imperceptible sourire d'une ironie amicale passait comme une lueur rose sur ses lèvres charmantes à certaines phrases qui dénotaient de ma part un trouble profond ou une incurable sottise. Je ne lui avais encore rien dit de mon amour. Devant elle, j'étais sans pensée, sans force, sans courage. Mon cœur battait comme s'il voulait sortir de ma poitrine et s'élancer sur les genoux de sa souveraine. 20 fois j'avais résolu de m'expliquer, mais une insurmontable timidité me retenait. Le moindre air froid ou réservé de la comtesse me causait des transes mortelles et comparables à celles du condamné qui, la tête sur le billot, attend que l'éclair de la hache lui traverse le cou. Des contractions nerveuses m'étranglaient, des sueurs glacées baignaient mon corps. Je rougissais, je pâlissais, et je sortais sans avoir rien dit, ayant peine à trouver la porte et chancelant comme un homme ivre sur les marches du perron. Lorsque j'étais dehors, mes facultés me revenaient, et je lançais au vent les dithyrambes les plus enflammés. J'adressais à l'idole absente 1000 déclarations d'une éloquence irrésistible. J'égalais dans ces apostrophes muettes les grands poètes de l'amour. Le cantique des cantiques de Salomon, avec son vertigineux parfum oriental et son lyrisme halluciné de haschich, les sonnets de Pétrarque, avec leur subtilité platonique et leur délicatesse éthérée, l'intermezzo de Henry Heine, avec sa sensibilité nerveuse et délirante, n'approche pas de ces effusions d'âme intarissables où s'épuisait ma vie. Au bout de chacun de ces monologues, il me semblait que la comtesse vaincue devait descendre du ciel sur mon cœur, et plus d'une fois je me croisais les bras sur ma poitrine, pensant les refermer sur elle. J'étais si complètement possédé que je passais des heures à murmurer en façon de litanie d'amour ces deux mots « Praskovi Labinska », trouvant un charme indéfinissable dans ces syllabes, tantôt égrenées lentement comme des perles, tantôt dites avec la volubilité fiévreuse du dévot que sa prière même exalte. D'autres fois, je traçais le nom adoré sur les plus belles feuilles de vélin, en y apportant des recherches calligraphiques des manuscrits du Moyen-Âge, rehauts d'or, fleurons d'azur, ramages de sinople. J'usais à ce labeur d'une minutie passionnée et d'une perfection puérile les longues heures qui séparaient mes visites à la comtesse. Je ne pouvais lire ni m'occuper de quoi que ce fût. Rien ne m'intéressait hors de Praskovie, et je ne détachais même pas les lettres qui me venaient de France. À plusieurs reprises, je fis des efforts pour sortir de cet état. J'essayais de me rappeler les axiomes de séduction acceptés par les jeunes gens, les stratagèmes qu'emploient les Valmont du Café de Paris et les Don Juan du Jockey Club. Mais à l'exécution, le cœur me manquait, et je regrettais de ne pas avoir, comme le Julien Sorel de Stendhal, un paquet d'épîtres progressives à copier pour les envoyer à la comtesse. Je me contentais d'aimer. me donnant tout entier sans rien demander en retour, sans espérance même lointaine, car mes rêves les plus audacieux osaient à peine effleurer de leurs lèvres le bout des doigts rosés de Praskovie. Au XVe siècle, le jeune novice, le front sur les marges de l'autel, le chevalier agenouillé dans sa roide armure, ne devait pas avoir pour la Madone une adoration plus prosternée. Monsieur Balthazar Cherbonneau avait écouté Octave avec une attention profonde, car pour lui le récit du jeune homme n'était pas seulement une histoire romanesque, et il se dit, comme à lui-même pendant une pause du narrateur, voilà bien le diagnostic de l'amour-passion, une maladie curieuse, et que je n'ai rencontrée qu'une fois, à Chandernagore, chez une jeune paria éprise d'un brame. Elle en mourut, la pauvre fille, mais c'était une sauvage. Vous, monsieur Octave, vous êtes un civilisé, et nous vous guérirons. Sa parenthèse fermée, il fit signe de la main à monsieur de Saville de continuer, et reployant sa jambe sur sa cuisse comme la patte articulée d'une sauterelle, de manière à faire soutenir son menton par son genou, il s'établit dans cette position impossible pour tout autre, mais qui semblait spécialement commode pour lui. « Je ne veux pas vous ennuyer du détail de mon martyre secret, » continua Octave. « J'arrive à une scène décisive. Un jour, ne pouvant plus modérer mon impérieux désir de voir la comtesse, je devançais l'heure de ma visite accoutumée. Il faisait un temps orageux et lourd. Je ne trouvais pas Madame Labinska au salon. Elle s'était établie sous un portique soutenu de sveltes colonnes, ouvrant sur une terrasse par laquelle on descendait au jardin. Elle avait fait apporter là son piano, un canapé et des chaises de jonc. Des jardinières comblées de fleurs splendides, nulle part elles ne sont si fraîches ni si odorantes qu'à Florence, remplissaient les entrecolonnements et s'imprégnaient de leur parfum les rares bouffées de brise qui venaient de la Penna. Devant soi, par l'ouverture des arcades, l'on apercevait les ifs et les buis taillés des jardins, d'où s'élançaient quelques cyprès centenaires et que peuplaient des marbres mythologiques dans le goût tourmenté de Baccio Bandinelli ou de la Mamanto. Au fond, au-dessus de la silhouette de Florence, s'arrondissait le dôme de Santa Maria del Fiore et jaillissait le beffroi carré du Palazzo Vecchio. La comtesse était seule, à demi couché sur le canapé de jonc. Jamais elle ne m'avait paru si belle. Son corps nonchalant, alangui par la chaleur, baignait comme celui d'une nymphe marine dans l'écume blanche d'un ample peignoir de mousseline des Indes que bordait du haut en bas une garniture bouillonnée comme la frange d'argent d'une vague. Une broche en acier niellé du Khorasan fermait à la poitrine cette robe aussi légère que la draperie qui voltige autour de la victoire attachant sa sandale. Des manches ouvertes à partir de la saignée, comme les pistils du calice d'une fleur, sortaient ses bras d'un ton plus pur que celui de l'albâtre, où les statuaires florentins taillent des copies de statues antiques. Un large ruban noir nouait la ceinture, et dont les bouts retombaient et tranchaient vigoureusement sur toute cette blancheur. Ce que ce contraste de nuances attribué au deuil aurait pu avoir de triste était égayé par le bec d'une petite pantoufle circassienne sans quartier, en maroquin bleu, gaufré d'arabesque jaune qui pointait sous le dernier pli de la mousseline. Les cheveux blonds de la comtesse, dont les bandeaux ébouffants comme s'ils eussent été soulevés par un souffle, découvraient son front pur et ses tempes transparentes, formaient comme un nimbe où la lumière pétillait en étincelles d'or. Près d'elle, sur une chaise, palpitait au vent un grand chapeau de paille de riz orné de longs rubans noirs, pareils à ceux de la robe, et gisait une paire de gants que Suède qui n'avait pas été mis. À mon aspect, Praskovy ferma le livre qu'elle lisait, les poésies de Mickiewicz, et me fit un petit signe de tête bienveillant. Elle était seule, circonstance favorable et rare. Je m'assis en face d'elle sur le siège qu'elle me désigna. Un de ces silences pénibles quand ils se prolongent régna quelques minutes entre nous. Je ne trouvais à mon service aucune de ces banalités de la conversation. Ma tête s'embarrassait, des vagues de flammes montaient du cœur aux yeux, et mon amour me criait « Ne perds pas cette occasion suprême !» J'ignore ce que j'eusse fait si la comtesse, devinant la cause de mon trouble, se fût redressée à demi, en tendant vers moi sa belle main, comme pour me fermer la bouche. Ne dites pas un mot, Octave. Vous m'aimez, je le sais, je le sens, je le crois. Je ne vous en veux point, car l'amour est involontaire. D'autres femmes plus sévères se montreraient offensées. Moi, je vous plains, car je ne puis vous aimer, et c'est une tristesse pour moi d'être votre malheur. Je regrette que vous m'ayez rencontré, maudit le caprice qui m'a fait quitter Venise pour Florence. J'espérais alors que ma froideur persistante vous lasserait et vous éloignerait. Mais le vrai amour dont je vois tous les signes dans vos yeux ne se rebute de rien. Que ma douceur ne fasse naître en vous aucune illusion, aucun rêve, et ne prenez pas ma pitié pour un encouragement. Un ange au bouclier de diamants, à l'épée flamboyante, me garde contre toute séduction, mieux que la religion, mieux que le devoir, mieux que la vertu. Et cet ange, c'est mon amour. J'adore le comte Labinski. J'ai le bonheur d'avoir trouvé la passion dans le mariage. Un flot de larmes jaillit de mes paupières à cet aveu si franc, si loyal et si noblement pudique, et je sentis en moi se briser le ressort de ma vie. Praskovy, émue, se leva, et par un mouvement de gracieuse pitié féminine, passa son mouchoir de batiste sur mes yeux. « Allons, ne pleurez pas, me dit-elle, je vous le défends. Tâchez de penser à autre chose. » Imaginez que je suis partie à tout jamais, que je suis morte. Oubliez-moi. Voyagez, travaillez, faites du bien, mêlez-vous activement à la vie humaine. Consolez-vous dans un art ou un amour. Je fis un geste de dénégation. Croyez-vous souffrir moins en continuant à me voir ? Reprit la comtesse. Venez, je vous recevrai toujours. Dieu dit qu'il faut pardonner à ses ennemis. Pourquoi traiterait-on plus mal ceux qui vous aiment? Cependant, l'absence me paraît un remède plus sûr. Dans 2 ans, nous pourrons nous serrer la main sans péril, pour vous, ajouta-t-elle en essayant de sourire. Le lendemain, je quittai Florence. Mais ni l'étude, ni les voyages, ni le temps n'ont diminué ma souffrance, et je me sens mourir. Ne m'en empêchez pas, docteur. Avez-vous vu la comtesse Praskovy Labinska ? Dit le docteur, dont les yeux bleus scintillaient bizarrement. Non, répondit Octave, mais elle est à Paris. Et il tendit à M. Balthazar Cherbonneau une carte gravée sur laquelle on lisait « La comtesse Praskovy Labinska est chez elle le jeudi. » Chapitre 3. Parmi les promeneurs assez rares alors qui suivaient aux Champs-Élysées l'avenue Gabriel, à partir de l'ambassade ottomane jusqu'à l'Élysée Bourbon, préférant au tourbillon poussiéreux et à l'élégant fracas de la grande chaussée l'isolement, le silence et la calme fraîcheur de cette route bordée d'arbres d'un côté et de l'autre de jardin, Il en est peu qui ne se fussent arrêtés, tout rêveurs et avec un sentiment d'admiration mêlé d'envie, devant une poétique et mystérieuse retraite où, chose rare, la richesse semblait loger le bonheur. À qui n'est-il pas arrivé de suspendre sa marche à la grille d'un parc, de regarder longtemps la blanche villa à travers les massifs de verdure, et de s'éloigner le cœur gros comme si le rêve de sa vie était caché derrière ses murailles. Au contraire, d'autres habitations, vues ainsi du dehors, vous inspirent une tristesse indéfinissable. L'ennui, l'abandon, la désespérance glacent la façade de leur teinte grise et jaunissent les cimes à demi-chauves des arbres. Les statues ont des lèpres de mousse, les fleurs s'étiolent, l'eau des bassins verdit, les mauvaises herbes envahissent les sentiers malgré le racloir et les oiseaux, s'il y en a, se taisent. Les jardins en contrebas de l'allée en étaient séparés par un saut de loup et se prolongeaient en bandes plus ou moins larges jusqu'aux hôtels dont la façade donnait sur la rue du Faubourg Saint-Honoré. Celui dont nous parlons se terminait au fossé par un remblai que soutenait un mur de grosses roches choisies pour l'irrégularité curieuse de leur forme et qui, se relevant de chaque côté en manière de coulisses, encadraient de leurs aspérités rugueuses et de leur masse sombre, le frais et vert paysage resserré entre elles. Dans les anfractuosités de ces roches, le cactier raquette, l'asclépiade incarnate, le millepertuis, le saxifrage, le cymbalaire, la joubarbe, la lycnite des Alpes, le lierre d'Irlande trouvaient assez de terre végétale pour nourrir leurs racines et découper leurs verdures variées sur le fond vigoureux de la pierre. Un peintre n'eût pas disposé au premier plan de son tableau un meilleur repoussoir. Les murailles latérales qui fermaient ce paradis terrestre disparaissaient sous un rideau de plantes grimpantes, aristoloches, grenadilles, bleues, campanules, chèvrefeuilles, gypsophiles, glycines de Chine, périplocas de Grèce, dont les griffes, les vrilles et les tiges s'enlaçaient à un treillis vert, car le bonheur lui-même ne veut pas être emprisonné. Et grâce à cette disposition, le jardin ressemblait à une clairière dans une forêt, plutôt qu'à un parterre assez étroit, circonscrit par les clôtures de la civilisation. Un peu en arrière des masses de rocailles, étaient groupés quelques bouquets d'arbres au port élégant, à la frondaison vigoureuse, dont les feuillages contrastaient pittoresquement. Vernis du Japon, tuyas du Canada, planes de Virginie, frênes verts, saules blancs, microcouliers de Provence, que dominaient deux ou trois mélèzes. Au-delà des arbres, s'étalait un gazon de raies grasses, dont pas une pointe d'herbe ne dépassait l'autre, un gazon plus fin, plus soyeux que le velours d'un manteau de renne, de cet idéal vert d'émeraude qu'on n'obtient qu'en Angleterre devant le perron des manoirs féodaux, moelleux tapis naturel que l'œil aime à caresser et que le pas craint de fouler, moquette végétale où, le jour, peuvent seuls se rouler au soleil la gazelle familière avec le jeune baby ducal dans sa robe de dentelle, et la nuit glissée au clair de lune, quelque Titania du West End, la main enlacée à celle d'un Oberon porté sur le livre du Peerage et du Baronetage. Une allée de sable tamisée au crible de peur qu'une valve de conque ou qu'un angle de silex ne blessât les pieds aristocratiques qui y laissaient leur délicate empreinte, circulait comme un ruban jaune autour de cette nappe verte, courte et dure, que le rouleau égalisait et dont la pluie factice de l'arrosoir entretenait la fraîcheur humide même aux jours les plus desséchants de l'été. Au bout de la pièce de gazon éclatait, à l'époque où se passe cette histoire, un vrai feu d'artifice fleuri, tiré par un massif de géranium, dont les étoiles écarlates flambaient sur le fond brun d'une terre de bruyère. L'élégante façade de l'hôtel terminait la perspective. De sveltes colonnes d'ordre ionique soutenant l'attique, surmontées à chaque angle d'un gracieux groupe de marbre, lui donnaient l'apparence d'un temple grec transformé là par le caprice d'un millionnaire et corrigeait, en éveillant une idée de poésie et d'art, tout ce que le luxe aurait pu avoir de trop fastueux. Dans les entrecolonnements, des stores, rayés de larges bandes roses et presque toujours baissées, abritaient et dessinaient les fenêtres qui s'ouvraient de plain pied sous le portique comme des portes de glace. Lorsque le ciel fantasque de Paris daignait étendre un pan d'azur derrière ce palazzino, les lignes s'en dessinaient si heureusement entre les touffes de verdure qu'on pouvait les prendre pour le pied-à-terre de la reine des fées ou pour un tableau de baron agrandi. De chaque côté de l'hôtel s'avançaient dans le jardin deux serres formant ailes, dont les parois de cristal se diamantaient au soleil entre la nervure dorée et faisaient à une foule de plantes exotiques les plus rares et les plus précieuses l'illusion de leur climat natal. Si quelque poète matineux eût passé avenue Gabriel aux premières rougeurs de l'aurore, il eût entendu le rossignol achever les derniers tris de son nocturne et vu le merle se promener en pantoufles jaunes dans l'allée du jardin comme un oiseau qui est chez lui. Mais la nuit, après que les roulements des voitures venant de l'opéra se sont éteints au milieu du silence de la vie endormie, ce même poète aurait vaguement distingué une ombre blanche au bras d'un beau jeune homme et serait remonté dans sa mansarde solitaire, l'âme triste jusqu'à la mort. C'était là qu'habitait depuis quelque temps, le lecteur l'a sans doute déjà deviné, la comtesse Praskovi-Labinska et son mari le comte Olaf Labinski, revenus de la guerre du Caucase après une glorieuse campagne, où, s'ils ne s'étaient pas battus corps à corps avec le mystique et insaisissable Chamil, certainement il avait eu affaire au plus fanatiquement dévoué des mourides de l'illustre cheikh. Il avait évité les balles, comme les braves les évitent, en se précipitant au-devant elle, et les damas courbes des sauvages guerriers s'étaient brisés sur sa poitrine sans l'entamer. Le courage est une cuirasse sans défaut. Le comte Labinski possédait cette valeur folle des races slaves, qui aiment le péril pour le péril, et auquel peut s'appliquer encore ce refrain d'un vieux chant scandinave. Il tue, meurt et rit. Avec quelle ivresse s'étaient retrouvés ces deux époux, pour qui le mariage n'était que la passion permise par Dieu et par les hommes. Thomas Moore pourrait seul le dire en style d'amour des anges. Il faudrait que chaque goutte d'encre se transformât dans notre plume en goutte de lumière, et que chaque mot s'évapora sur le papier en jetant une flamme et un parfum comme un grain d'encens. Comment peindre ces deux âmes fondues en une seule et pareilles à deux larmes de rosée qui, glissant sur un pétale de lys, se rencontrent, se mêlent, s'absorbent l'une l'autre et ne font plus qu'une perle unique. Le bonheur est une chose si rare en ce monde que l'homme n'a pas songé à inventer des paroles pour le rendre, tandis que le vocabulaire des souffrances morales et physiques remplit d'innombrables colonnes dans le dictionnaire de toutes les langues. Olaf et Praskovi s'étaient aimés tout enfant. Jamais leur cœur n'avait battu qu'un seul nom. Ils savaient presque dès le berceau qu'ils s'appartiendraient, et le reste du monde n'existait pas pour eux. On eût dit que les morceaux de l'androgyne de Platon, qui se cherchent en vain depuis le divorce primitif, s'étaient retrouvés réunis en eux. Ils formaient cette dualité dans l'unité qui est l'harmonie complète, et côte à côte, ils marchaient, ou plutôt ils volaient à travers la vie, d'un essor égal, soutenu, planant comme deux colombes que le même désir appelle pour nous servir de la belle expression de Dante. Afin que rien ne troublât cette félicité, une fortune immense l'entourait comme d'une atmosphère d'or. Dès que ce couple radieux paraissait, la misère consolée quittait ses haillons, les larmes se séchaient. Karolaf et Praskovie avaient le noble égoïsme du bonheur et ils ne pouvaient souffrir une douleur dans leur rayonnement. Depuis que le polythéisme a emporté avec lui ces jeunes dieux, ces génies souriants, ces éphèbes célestes, aux formes d'une perfection si absolue, d'un rythme si harmonieux, d'un idéal si pur, et que la Grèce antique ne chante plus l'hymne de la beauté en strophe de Paros, l'homme a cruellement abusé de la permission qu'on lui a donnée d'être laid, et, quoique fait à l'image de Dieu, il représente assez mal. Mais le comte Labinski n'avait pas profité de cette licence. L'ovale un peu allongé de sa figure, son nez mince, d'une coupe hardie et fine, sa lèvre fermement dessinée, qu'accentuait une moustache blonde aiguisée à ses pointes, son menton relevé et frappé d'une fossette, ses yeux noirs, singularité piquante, étrangeté gracieuse, lui donnait l'air d'un de ces anges guerriers, Saint-Michel ou Raphaël, qui combattent le démon, revêtus d'armes d'or. Il eût été trop beau sans l'éclair mâle de ses sombres prunelles et la couche hâlée que le soleil d'Asie avait déposée sur ses traits. Le comte était de taille moyenne, mince, svelte, nerveux, cachant des muscles d'acier sous une apparente délicatesse, et lorsque dans quelques bals d'ambassade, il revêtait son costume de magnate ou chamarré d'or, tout étoilé de diamants, tout brodé de perles, il passait parmi les groupes comme une apparition étincelante, excitant la jalousie des hommes et l'amour des femmes, que Praskovie lui rendait indifférente. Nous n'ajoutons pas que le comte possédait les dons de l'esprit comme ceux du corps. Les fées bienveillantes l'avaient doué à son berceau, et la méchante sorcière qui gâte tout s'était montrée de bonne humeur ce jour-là. Vous comprenez qu'avec un tel rival, Octave de Saville avait peu de chance, et qu'il faisait bien de se laisser tranquillement mourir sur les coussins de son divan, malgré l'espoir qu'essayait de lui remettre au cœur le fantastique docteur Balthazar Cherbonneau. Oublier Praskovie eût été le seul moyen, mais c'était la chose impossible. La revoir, à quoi bon ? Octave sentait que la résolution de la jeune femme ne faiblirait jamais dans son implacabilité douce, dans sa froideur compatissante. Il avait peur que ses blessures non cicatrisées ne se rouvrissent et ne saignassent devant celle qu'il avait tuée innocemment. Et il ne voulait pas l'accuser, la douce meurtrière aimée.